Vous écoutez, on lit pour vous.
Se faire une santé en allant travailler. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 19 avril 2025 dans La Presse. La décision d'aller travailler à vélo est l'une des plus importantes que l'on puisse prendre pour sa santé, a conclu une vaste étude écossaise. Bienfait méconnu. Lorsqu'on pense à la forme et à la santé, on imagine souvent des repas sains, une modération de la consommation d'alcool et des visites fréquentes au gym ou à la piscine municipale. Or, la façon dont on se déplace au quotidien joue un rôle plus important qu'on le croyait sur la santé, révèle une étude écossaise publiée en 2024 dans la revue scientifique BMJ Public Health. Une étude 82 000 participants. Les chercheurs ont examiné les résultats d'une étude longitudinale qui suit un groupe sur une certaine période de temps, réalisée en Écosse et à laquelle plus de 82 000 personnes ont participé. Parmi les données analysées, on trouve les admissions à l'hôpital, les diagnostics médicaux, les ordonnances, etc. Les chercheurs ont comparé les résultats obtenus lors du coup de sonde de 2001 à ceux obtenus en 2018. 47% moins de risque de mortalité. Les gens qui disaient utiliser les transports actifs, marcher vélo, pour aller travailler en 2001, avaient un bien meilleur bilan de santé 17 ans plus tard, même après que les chercheurs ont ajusté les résultats pour tenir compte d'autres facteurs comme les habitudes alimentaires, sportives, les niveaux de revenus, etc. Comparativement aux navetteurs qui se déplaçaient en voiture, les gens qui se rendaient au travail à vélo présentaient 47% moins de risque de mortalité et 24% moins de risque d'être hospitalisés pour une maladie cardiaque. L'utilisation du vélo pour aller travailler a aussi réduit de 51% le risque de mourir d'un cancer et a entraîné une diminution de 20% du risque de devoir prendre des médicaments pour des problèmes de santé mentale. Intégrer l'activité. D'où viennent ces bienfaits? Les chercheurs notent que 46,5% de tous les navetteurs actifs, marche et vélo, atteignaient un objectif quotidien de 30 minutes d'activité d'intensité modérée rien que pour leur trajet domicile-travail. Les déplacements actifs ont des effets bénéfiques évidents sur la santé, écrivent-ils. Jean-François Réau, président-directeur général de Vélo Québec, remarque que le vélo est une solution simple à plusieurs problèmes complexes. Et c'est aussi vrai même l'hiver, alors que 1225 passages ont été enregistrés sur la piste cyclable du Rêve Saint-Denis à Montréal le mardi 4 février 2025, au lendemain d'une tempête, note-t-il. Mobilité, environnement, économie, santé. Les avantages d'utiliser le vélo sont visibles sur plusieurs fronts. Ça peut être difficile de trouver le temps d'intégrer de l'activité physique dans sa journée. Mais si on l'intègre dans nos déplacements, on fait d'une pierre deux coups. Les Québécois passent en moyenne 3,3 heures par semaine à faire du vélo. Cela permet d'éviter 724 décès par année à l'échelle du Québec, note-t-il. Et 724 décès évités par année se traduisent par une valeur économique de près de 2 milliards. C'est ça, l'apport du vélo à l'économie québécoise, rien qu'au niveau de la santé. La marche aussi. L'étude écossaise montre aussi que marcher pour aller au travail présentait des avantages qui, sans être aussi élevés que ceux observés pour le vélo, sont significatifs pour la santé. Les piétons qui se rendent au travail ont 9% moins de risque d'admission à l'hôpital, 10% moins de risque de recevoir une ordonnance de médicaments pour le cœur et 7% moins de recevoir une ordonnance de médicaments en lien avec la santé mentale. C'était Se faire une santé en allant travailler, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 19 avril 2025 dans La Presse.
Sarah de Gonse, Être, inconditionnellement, un texte de Vicky Sanfasson, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. Affirmer que le féminisme a mauvaise presse est un leitmotiv lassant, souvent utilisé par ceux et celles qui cherchent à minimiser sa force de frappe. Et pourtant, peu importe la forme choisie, pour peu que l'on croie en l'égalité, ce combat n'essouffle pas sa pertinence. La grande Simone de Beauvoir le résume mieux que quiconque. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Alors qu'aujourd'hui, cette célèbre citation s'alourdit du poids de la prophétie réalisée, certaines écrivaines continuent de prendre la plume pour faire sienne les revendications d'autrices qui, avant elles et comme elles, ont compris que l'écrit a le pouvoir de défricher la société pour lui permettre un renouveau fécond. Dans son dernier roman pour jeunes adultes intitulé « Là où naissent les papillons », publié chez Grund Québec, l'autrice Sarah de Gonse contribue à cette réflexion pérenne en ancrant le féminisme dans le quotidien de la jeune génération par le biais de sa narratrice, Suzanne de Montbéliac. À 21 ans, cette jeune Montréalaise, au carrefour de sa vie d'adulte, vient tout juste de remplir la dernière case du bingo de la vie réussie en décrochant un emploi de rêve dans un des théâtres les plus prestigieux de Montréal. Si sa feuille de route marquée d'étoiles et de A+, devrait normalement la combler, étrangement, le coup d'œil lui donne davantage l'impression de regarder des instantanées de vie déconnectées. Elle coche pourtant toutes les cases. Une amitié durable avec l'irremplaçable Justin, un appartement charmant idéalement situé et, cerise sur le gâteau, assez éloigné du contrôle de sa mère qu'elle partage depuis 4 ans avec un gentil garçon. Comment expliquer alors que seul l'éclat gris-vert des yeux de sa collègue Joséphine et la correspondance intrigante entre deux femmes du début du siècle soient en mesure de l'émouvoir? Est-il possible de se tromper alors que l'on pensait avoir suivi à la lettre toutes les étapes de l'assemblage? Doit-on laisser de côté les instructions pour trouver sa propre voie? Ces questionnements font écho à ceux que l'autrice s'est posés à plusieurs époques de sa vie. Sarah ne s'en cache pas. Suzanne, c'est elle jusqu'au bout des ongles et jusque dans ses contradictions les plus évidentes. La Suzanne romantique, amoureuse infinie de l'œuvre de Jane Austen, comme la Suzanne féministe, qui tente de trouver sa voie dans un univers artistique qui n'est pas toujours tendre envers les femmes. Si l'autrice peut rêver de bals et de somptueuses robes tout en étant consciente des injustices subies par les femmes du début du siècle, elle est également convaincue qu'il est possible de repenser le féminisme au-delà de l'étiquette négative qui lui colle trop souvent à la peau. Tout est une question de perspective. Les étiquettes permettent de rassurer ceux et celles qui ont besoin de classer leurs expériences dans des cases. Mais ces étiquettes-là, elles nous nuisent énormément puisqu'elles sont formatées par une société qui a besoin de donner rapidement un sens à ce qu'elle voit. Il s'agit trop souvent de raccourcis. Lorsque l'on dit à une féministe qu'elle devrait être capable de soulever un canapé toute seule, ce n'est qu'un quiproquo qui nous éloigne des vrais enjeux. Le féminisme n'est pas la revendication d'une égalité physiologique. C'est vouloir les mêmes droits en tant qu'être humain. C'est demander une justice sociale, une égalité des salaires, de pouvoir disposer de son propre corps, etc. C'est le même combat depuis les débuts. Un combat que l'on voit se jouer dans une correspondance épistolaire que Suzanne découvre dans un écrin de bois gracieusement offert par Henri, son vieil ami antiquaire. Sur les pages d'un papier jauni datant de 1935, Prudence écrit à Rose. De sa calligraphie soignée, elle partage avec son amie les mots bouleversants de George Sand et de Colette, ainsi que ses réflexions sur les limitations frustrantes imposées par son sexe. Elle se questionne sur son avenir, rêve de liberté et admire les femmes qui ont le courage de leurs convictions. Malgré les années qui les séparent et l'évolution des mentalités, comme des technologies de communication, Suzanne sent une connexion sincère avec sa nouvelle amie de papier à travers des questionnements qui se font écho à travers le temps. Suzanne, c'est un peu Prudence. En fait, on est toutes des Prudences, on est toutes des femmes qui se posent des questions, qui veulent des droits. Cette quête de droit, loin d'être un combat solitaire, trouve sa force dans l'union des femmes. C'est dans l'environnement malsain de son nouvel emploi, causé par un directeur aux mains baladeuses et aux idéaux tout aussi désinvoltes, que Suzanne découvre toute la force de la sororité face à l'adversité. Dans le roman, Suzanne est témoin d'une situation houleuse entre une collègue et son patron. Initialement hésitante, elle choisit finalement d'aborder le sujet avec sa collègue, reconnaissant l'importance du dialogue entre femmes. Et je crois sincèrement à ça. Les femmes ont été conditionnées à se voir en ennemies. Le mouvement #MeToo a joué un rôle de catalyseur dans l'émergence d'une nouvelle forme de sororité. Le regard que l'on pose l'une sur l'autre doit être différent. Au lieu de juger, il faut s'entraider. Il faut arrêter de voir les femmes comme des pions à éliminer et les considérer comme des alliées précieuses qui peuvent nous aider à avancer. Le cheminement vers la solidarité et l'émancipation est au cœur du roman de Sarah de Gonse, qui utilise la métaphore du papillon pour symboliser les élans intérieurs qui nous poussent à l'action. Les papillons, c'est l'excitation d'où naît la ferveur du combat féministe, qui nous donne l'élan pour nous battre pour nos droits et choisir le cours de notre vie. Suzanne incarne cette quête d'autonomie d'abord en s'opposant à ses parents, à sa mère surtout, par le choix d'une carrière artistique. Elle va également au-delà des attentes sociales, en suivant les élans de ses papillons amoureux et en osant aimer à sa façon. Je pense que dans la vie, il faut suivre un peu son propre instinct. C'est ce que j'avais envie de dire à Suzanne dans ce roman. Oui, elle a fait ce qu'il fallait. Elle s'est mise en couple, a habité avec un garçon, même si la passion s'est vite envolée. Mais finalement, elle se rend à l'évidence qu'elle n'existe pas vraiment dans ce choix. Je voulais qu'elle se choisisse, elle. L'attirance de Suzanne pour Joséphine se cristallise à travers sa lecture de la correspondance entre Prudence et Rose, miroir de ses propres émotions. Comme Prudence, Suzanne doit se rendre à l'évidence que la vie ne se limite pas à ce qu'elle a appris. Elle doit s'écouter, faire taire le bruit de la société et de ses propres angoisses pour oser prendre des risques et même, s'il le faut, se tromper. Tout revient à cette perle de sagesse que le père de l'autrice lui répétait lorsque l'indécision la taraudait. Écoute ta petite musique intérieure. Si vous doutez toujours de la pertinence d'un roman féministe à notre époque, détrompez-vous. Là où naissent les papillons est un rappel puissant à l'affirmation de soi, comme femme et comme individu. Ce texte, drôle, touchant et sincère, sème les graines d'une prise de conscience collective qui doit germer dans la tête de la jeune génération pour que s'enrayent les mécanismes qui isolent et oppriment. À nous maintenant de nous laisser porter par ces mots et cet élan solidaire en osant ajouter une pierre à l'édifice que des femmes avant nous ont érigé en reine. Ce n'est qu'en conjuguant nos actions au pluriel que nous gagnerons la bataille. C'était Sarah de Gonse, Être inconditionnellement, un texte de Vicky Sansfaçon, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires.
Chute de la bourse. Dans quel rare cas devriez-vous retirer vos placements? Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 15 avril 2025 dans Protégez-vous. Ne paniquez pas. Ne touchez à rien. Ces conseils sont maintes fois répétés par les experts en finance lors de corrections boursières. Dans quel rare cas ne faut-il pas les suivre? Gardez le cap. Si vous êtes loin de la retraite et que vous pensez décaisser votre argent dans plusieurs années, c'est le tout premier conseil et il vaut son pesant d'or. Citation. Des corrections boursières, il va y en avoir encore. Fin de citation, prévient Yannick Cerny, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective chez SFL Gestion de patrimoine. Il en veut pour preuve les pertes qu'ont subies ceux qui ont vendu leurs placements lors du creux de la pandémie. Ils n'ont pas profité du rebond et ont été perdants, rappelle le spécialiste. Ce conseiller financier peut comprendre l'inquiétude des investisseurs qui voient leurs investissements fondre comme neige au soleil. Le mieux pour échapper à l'angoisse est de ne pas aller voir ses placements et de ne pas écouter les nouvelles sur le sujet afin d'éviter tout stress supplémentaire. Tout bon investisseur le sait, tant qu'on ne retire pas ses placements, on ne perd rien. Conseiller financier et fondateur de La Boussole financière, Steve Bonneau abonde en ce sens. Citation. « Vous ne pouvez pas vous retirer du marché juste parce que la bourse est en baisse », explique-t-il. « Et ce, peu importe votre situation. D'autant que les creux boursiers ne durent qu'un temps. Avec un tout petit peu de patience, les actions reprennent au moins une partie de leur valeur. » Fin de citation. Planifier des projets à court terme. Mais parfois, on n'a pas le choix. Il faut retirer des fonds. Par exemple, vous devez déposer la mise de fonds d'une hypothèque et celle-ci se trouve dans des fonds placés en bourse. Vous aviez placé des économies pour des études supérieures et la facture vient d'arriver. Vous faites face à des dépenses imprévues qui ne peuvent attendre quelques mois, voiture, chauffage de maison, gros frais de santé. Vous comptez sur vos placements pour votre retraite et vous ne pouvez pas remettre certains retraits. Steve Bonneau note que même dans tous ces cas, ce n'est jamais une bonne situation de devoir retirer son argent lorsque les marchés s'effondrent. Citation. En fait, estime-t-il, il est un peu trop tard pour retirer ses investissements lors d'un coup dur à la bourse quand on a des projets à court terme et qu'on aurait pu anticiper des décaissements. Fin de citation. Plutôt que de miser sur un type de portefeuille à croissance élevée, les investisseurs qui savent qu'ils retireront des fonds dans les mois ou les années à venir devraient opter pour un portefeuille plus conservateur. Citation. Il faut vous assurer au fur et à mesure que votre stratégie financière correspond à vos besoins, à votre situation et à votre profil. Fin de citation, souligne Steve Bonneau. La diversification est la clé. Pour éviter une chute brutale de ses placements, il faut s'assurer que le portefeuille de placement est bien diversifié sur plusieurs secteurs d'activité. Yannick Cerny donne l'exemple d'un investisseur n'ayant que des actions dans le secteur des technologies. Son portefeuille est très certainement fort mal en point en ce moment. Citation. Il faut que vous ayez des actions, valeurs, plus défensives pour venir contrebalancer celles du secteur des technologies qui sont plus volatiles, soutient le conseiller en sécurité financière. Par exemple, vous pouvez investir dans un fonds commun de placement qui peut regrouper des centaines de compagnies plutôt que d'investir dans 3 ou 4 grandes compagnies spécifiques. Fin de citation. Le professionnel de la finance recommande aux gens qui savent qu'ils vont devoir décaisser des fonds prochainement d'investir une partie de leur portefeuille dans des obligations d'épargne selon leur horizon de placement. Des personnes au seuil de la retraite ou celles qui doivent retirer des fonds pour compléter leur rente devraient disposer d'une année au moins de placement en obligations. Peu importe si la bourse joue au yo-yo, ça n'affectera pas leur retrait. Avoir des liquidités pour les besoins à court terme. Les professionnels de la finance recommandent aussi de disposer d'un montant substantiel sur des comptes à intérêt élevé lorsque vous approchez de la retraite ou si vous pouvez prévoir de fortes dépenses. Ces liquidités vous permettent de ne pas retirer de l'argent des placements au moment où ceux-ci font le plongeon et d'assumer tout de même vos dépenses. Citation : L'argent que vous placez à la bourse, ce n'est pas de l'argent que vous devriez avoir pour vous acheter un lave-vaisselle. Fin de citation, illustre Steph Bonneau. Selon lui, les gens devraient également être bien assurés afin de pallier les imprévus de la vie. Citation : Une personne sur trois, âgée de 30 ans, va être invalide ou malade pendant au moins 6 mois consécutifs au cours de sa vie, mentionne le conseiller financier. Si cela survient, est-ce que vous avez une assurance pour payer votre hypothèque? Fin de citation. C'était « Chute de la bourse, dans quel rare cas devriez-vous retirer vos placements? » Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 15 avril 2025 dans « Protégez-vous ».
Dis-moi pour qui tu votes, je te dirai si je t'aime. Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 25 avril 2025 dans le magazine Fugue. Depuis 5 ans, je regarde Love is Blind comme un sociologue curieux de découvrir les travers ignobles et les comportements inspirants des couples qui se forment sous nos yeux. En visionnant la 8e saison, j'ai frétillé de joie en voyant 2 femmes refuser de marier leur amoureux en raison de leurs idées conservatrices. Commençons par aborder l'éléphant dans la pièce. Le concept de cette télé-réalité est parfois douteux. On réunit des célibataires qui discutent sans se voir pendant des heures pour voir s'il est possible de tomber amoureux ainsi. Cette portion de l'émission est intéressante. Les candidats, candidates, mettent de côté leur apparence, multiplient les conversations en profondeur et font preuve d'ouverture et de vulnérabilité. Toutefois, elles doivent ensuite se demander en mariage avant de se rencontrer et prendre leur décision finale à l'hôtel, devant famille et amis, 40 jours plus tard. C'est d'un ridicule. À la place, ils pourraient connecter sans se voir, se rencontrer dans le vrai monde et vérifier si leurs sentiments se concrétisent en relations durables. Mais revenons à nos moutons. Le premier couple qui a attiré mon attention était formé par Ben et Sarah. Énergiques, joviaux, complices, on les croyait partis pour la gloire. Jusqu'à ce que Sarah parle de sa sœur lesbienne pour s'assurer de l'ouverture d'esprit de son futur fiancé, très investi dans la religion. Il a répondu qu'elle acceptait totalement la communauté LGBTQ+, et qu'il avait des amis queer. Mais il a trébuché quand Sarah l'a questionné sur la première présidence de Donald Trump et le mouvement Black Lives Matter, BLM. En toute candeur, il a répondu qu'il était ignorant à ce sujet, qu'il n'avait pas voté aux dernières élections et qu'il se tenait en dehors des discussions sur BLM. Drapeau rouge. Pour Sarah, il est primordial que son éventuel mari s'intéresse aux droits humains et à l'égalité. Malgré ses appréhensions, elle a continué le processus avec Ben, qui lui promettait de s'informer et de grandir, ce qu'il n'a pas fait. Par amour pour lui, Sarah s'est rendue à un service religieux pour voir si elle-même pouvait s'ouvrir à ce qui importe à son amoureux. Pas très à l'aise, elle a ensuite visionné des messes en ligne pour connaître les visions de cette église sur les communautés queer. Sans surprise, sa suinte était le rejet et la fermeture, ce que Ben disait, encore ignoré, parce qu'il ne réfléchit pas à ces questions. Deuxième couple, Devin et Virginia. On les croyait inébranlables, tendres et doux. Il s'était ouvert sur des portions sombres de son passé et elle l'avait accueilli avec empathie. Les étapes suivantes semblaient les mener vers le mariage. Mais non, Virginia a senti que Devin n'était pas prêt à se marier, car il évitait de s'exprimer en détail sur de nombreux sujets, dont certaines questions politiques. Quand elle a affirmé soutenir le droit à l'avortement et les droits LGBTQ+, en vérifiant s'il votait pour le même parti, il a détourné le sujet en référant vaguement à l'Église. Et lorsqu'elle a découvert que la famille de Devin votait pour le clan conservateur, lire ici les Républicains, son trouble s'est accru, au point de refuser de se marier. Je l'avoue, j'ai applaudi dans mon salon. Ces deux hommes, malgré d'innombrables qualités humaines, ont payé pour leur ignorance, leur valeur de fermeture et leur refus de s'informer. Les analystes diront que ces situations sont le reflet du clivage politique grandissant aux États-Unis. D'autres affirmeront que des amoureux n'ont pas à avoir les mêmes opinions sur tout et qu'il existe des couples dont les partenaires ne votent pas de la même façon. Oui, mais non. Je n'accepte pas la facilité de cette réflexion. Il faut aller plus loin. On doit faire la différence entre deux individus qui n'ont pas la même opinion sur un film et deux personnes qui ont des valeurs fondamentalement différentes. Jamais, au grand jamais, je ne pourrais être en couple avec un homme raciste, anti-choix, sexiste et qui n'accorde aucune attention au grand courant de société parce qu'il est assis dans le confort de ses privilèges. Avec les élections fédérales du 28 avril 2025 et les élections provinciales annoncées pour le 5 octobre 2026, les membres de nos entourages ont l'occasion de démontrer s'ils se soucient vraiment des vies queer, des femmes, des personnes issues de cultures différentes de la leur et plus encore. C'est le moment de scruter ce qu'affirment les représentants, représentantes des différents partis, d'analyser les plateformes électorales et de se demander à quel point les droits humains sont importants à leurs yeux. Si ces gens préfèrent croire que leur épicerie et leur loyer coûteront moins cher parce que les politiciens, politiciennes leur rabattent les oreilles avec les enjeux trans et non-binaires, si ces gens croient que les préoccupations du Québec sont mieux défendues par des partis qui versent de l'huile sur le feu des conflits identitaires, si ces gens votent pour des formations politiques qui veulent et qui vont mettre en danger nos vies, nos droits et notre santé mentale, vous saurez alors quelles sont leurs priorités. C'était « Dis-moi pour qui tu votes, je te dirai si je t'aime », une chronique de Samuel Larochelle parue le 25 avril 2025 dans le magazine Fugue.